S'humilier, c'est pas se dénigrer avec des pensées comme « je suis nul, j'ai pas de valeur, je suis moins bien que les autres ». C'est reconnaître qu'on n'est pas maître de nos vies. C'est dire « Seigneur, tu sais mieux que moi et je soumets ma volonté à la tienne, même si les circonstances que je traverse me semblent incompréhensibles ou même détestables. » Mais ce n'est pas une soumission aveugle. S'humilier sous la main toute-puissante de Dieu, en fait, c'est se placer dans les mains qui ont ouvert la mer rouge, comme on chantait tout à l'heure, les mains qui tiennent la terre. C'est être couverte et protégée par cette main. Et Jésus, il en a témoigné devant Pilate lorsqu'il était accusé qu'il allait être mis à mort. Et il aurait eu des bonnes raisons d'angoisser. Il savait qu'il allait mourir. Et qu'est-ce qu'il dit à Pilate ? Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait été donné d'en haut. Croire que tout est entre les mains de Dieu, eh ben c'est un antidote puissant à l'angoisse. Et dans le jardin de Gethsémané, son angoisse extrême n'a pas empêché Jésus de dire « Ta volonté et non la mienne ». Parce qu'il savait que la volonté de son Père était bonne et que son débouché serait éclatant. Alors examinons nos cœurs quand la paix nous quitte. Confessons notre manque de foi, notre désir de contrôle et choisissons de nous humilier sous la main de Dieu parce que c'est là que commence le repos. Le texte continue. Il dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Parfois, les racines de notre angoisse ne sont pas forcément mauvaises. Il y a certaines situations qui sont objectivement effrayantes. Il y a certaines choses qu'on craint de perdre qui ont objectivement de la valeur. Mais la question qui se pose alors, c'est ben, qu'est-ce que j'en fais de cette anxiété? Quelle est ma réaction? Est-ce que je m'accroche à Christ, à ses promesses? Est-ce que je répands mon cœur devant lui? On a l'exemple de Job au plus profond de sa détresse. Il a dit des choses à Dieu qui, à moi, me semblent choquantes. Il dit ben, « Fais-moi mourir, maudis le jour de ma naissance, tu m'as abandonné. » Mais c'est dans la Bible. Est-ce qu'il a péché? Je ne pense pas. Parce qu'il répandait son cœur devant Dieu. Il restait en relation avec Dieu. Et tout ce qui nous enlève la paix aujourd'hui, doit nous conduire au pied de Dieu. Le terme qui est utilisé ici, « déchargez-vous sur lui », en fait, ça signifie littéralement « jeter sur lui ». On ne peut pas se décharger de nos épreuves, mais on peut se décharger de nos inquiétudes. Pourquoi ? On l'a vu ce matin, il a réglé notre plus grande angoisse, celle qui naît quand on cherche à préserver son confort, sa vie. Et j'aime beaucoup l'écho qu'il y a avec Ésaïe 53 dans ce passage. Hein, il dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis » et écoutez ce que dit Ésaïe. « Ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. » Il s'est chargé de notre péché pour que nous puissions être déchargés de nos soucis. Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et le châtiment qui nous donne la paix, hein, c'est le mot biblique pour la sérénité, et ben, il est tombé sur lui. Jésus s'intéresse vraiment à notre bien-être, même au cœur des circonstances difficiles. Il a même donné sa vie pour nous. Et que dit Jésus ? Ne vous inquiétez de rien. Faites-moi connaître vos besoins dans la prière. L'inquiétude, en fait, elle est stérile. Elle n'a jamais rien résolu. L'inquiétude, elle doute de la sagesse de Dieu. Elle nie son amour pour nous, elle nie sa puissance. L'inquiétude, elle affirme que Dieu ne prend pas soin de nous. C'est une fausse prophète. Elle prédit le pire. Ne l'entretenez pas. Déposez-la au pied de Jésus. Il y a une histoire qui m'a fait un peu rire. Vous connaissez le réformateur Luther? Et il a traversé une époque où la peste sévissait en Europe et il s'inquiétait beaucoup de la situation. Et un jour, il est rentré chez lui et sa femme l'a accueilli. Elle était vêtue tout en noir. Et il lui a dit, mais qui est mort? Et elle a dit, bah, à te voir, on dirait que c'est Dieu qui est mort. Tu agis comme s'il ne prenait pas soin de nous. Et Luther s'est repenti, il a compris. Comme on dit, derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Et enfin, petite précision pour nous les femmes, quand vous vous déchargez sur Dieu de vos soucis, ne repartez pas avec. Ça serait comme envoyer une lettre et suivre le facteur pour vérifier qu'il l'a bien envoyée. Ça serait ridicule. Et pourtant, en tant que femme, on aime bien se décharger de certaines choses, déléguer, tout en continuant à s'en charger un peu quand même. Voilà. La troisième injonction de Pierre, c'est « Soyez sobre et veillez ». Pourquoi faut-il être sobre et veiller? Parce que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Le but de Satan, c'est de nous éloigner de Dieu, nous pousser à douter de lui, à lui désobéir, nous rendre infructueux. Et il a beaucoup de stratégies. Il peut nous attaquer directement, comme dans certaines régions du monde. Il peut au contraire nous offrir une vie tellement paisible qu'on ne ressent pas le besoin de se tourner vers lui. Il peut semer des épreuves sur notre route qui nous font croire que Dieu nous a abandonnés. Hein, Satan, il a plusieurs costumes. Le serpent séducteur, l'ange de lumière, le lion effrayant. Et ce lion, je peux vous dire qu'il évoquait beaucoup pour les contemporains de Pierre, parce qu'ils avaient peut-être déjà vu certains de leurs compatriotes se faire dévorer par les lions dans les arènes à cause de leur foi. Mais vous connaissez peut-être l'histoire du pèlerin. Dans l'histoire du pèlerin, il y a des lions aussi qui rugissent, mais ils sont attachés. Et ils ne peuvent attaquer pèlerin que s'ils dévient du chemin. Et c'est pour ça que Pierre nous dit de veiller. Hein? La vigilance nous protège, elle nous garde sur le chemin. Être sobre, c'est pas seulement éviter de trop boire, c'est discipliner ses pensées et refuser les faux refuges. Je crois que nous, les femmes, on est particulièrement visées par les faux refuges. Notre monde nous répète que face à l'angoisse, il faut prendre du temps pour soi, trouver des loisirs, faire du yoga. Dans mon quartier, il y a des pubs pour le Qigong. Je ne connaissais pas, c'est faire circuler l'énergie des organes internes pour retrouver la sérénité. J'ai une amie qui est très proche, qui n'est pas chrétienne, et elle a lutté il n'y a pas longtemps avec des questions existentielles qui la tenaient éveillée la nuit. Elle se disait, mais pourquoi je suis là? À quoi sert ma vie? Est-ce que ça vaut la peine de vivre si de toute façon on va mourir? Et un jour, sa psychologue, vous savez ce qu'elle lui a conseillé? Elle lui a dit de se mettre à la couture. Et moi, j'étais indignée. J'étais atterrée. Je lui ai dit, mais tu crois vraiment que la solution à ta crise existentielle, c'est de faire de la couture? Et en fait, c'est ce que Satan, il veut. Il veut qu'on s'endorme le cerveau avec des faux refuges, des alternatives décevantes. Mais ne cherchez pas la sérénité dans des alternatives décevantes. Quand je préparais cette conférence, j'ai eu un moment où je me suis sentie un peu dépassée. J'ai commencé à stresser et je réfléchissais, j'étais angoissée. Et en fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis une série en fond. Ah, je réfléchis plus, ça fait du bien. Et en fait, je me suis dit, mais Priscilla, tu es en train de faire exactement ce que Pierre me dit de ne pas faire et ce que tu vas dire à ces femmes de ne pas faire. Donc Pierre, lui, nous encourage à faire ce que lui-même n'a pas pu faire dans le jardin de Gethsémané. Hein? Il n'a pas su veiller et prier comme lui demandait Jésus. Mais quel exemple de foi il a été après avoir été pardonné et rétabli par Jésus. Rappelons-nous que Satan a été vaincu à la croix. Son pouvoir, il est limité. Et que le même Jésus qui a prié pour que la foi de Pierre ne défaille pas, et bien il intercède pour nous aujourd'hui. Pierre nous appelle aussi à résister avec une foi ferme. Alors comment est-ce qu'on résiste à Satan ? Pas avec des formules magiques, des gris-gris, des paroles d'auto-affirmation, mais en tenant ferme dans la foi. Cette foi, elle ne dépend évidemment pas de nous, mais elle dépend de celui en qui elle repose. Quand vient frapper l'angoisse, on doit choisir à qui on va faire confiance et qui est-ce qu'on va écouter. On doit repérer en fait les pensées qui ouvrent la porte à la peur ou au découragement et les confronter à l'évangile. Luther, il disait, quand le diable vient frapper à ma porte, j'envoie Jésus répondre. Résister, en fait, c'est un choix conscient de s'attacher à Jésus, de se prêcher à soi-même, « Sois tranquille, mon âme », de rejeter tout mensonge qui voudrait nous faire croire que Dieu est lointain ou indifférent. Et ce n'est pas faire le vide, comme on aimerait nous le faire croire, c'est faire le plein de la parole de Dieu, parce que c'est lui notre refuge. Rester sereine face aux incertitudes, c'est choisir une attitude juste et humble, confesser notre désir de contrôle, se décharger sur Jésus de tous nos soucis, c'est veiller et résister avec foi. Et là où le monde nous dit « lâchez prise, faites le vide », Dieu il nous appelle au contraire à une attitude active, à tenir ferme, à prier et à résister. Et on peut se demander s'il y a un but à tout ça. Est-ce que ça ne serait pas plus simple si on pouvait juste fermer les yeux et chercher refuge ailleurs ? Qu'est-ce qu'il y a de si précieux dans ce combat intérieur pour que ça en vaille vraiment la peine ? Le verset 9 nous donne une source un peu étrange de consolation. Il dit « Tenez ferme, sachant que les mêmes épreuves sont imposées à vos frères dans le monde. » Est-ce que Dieu essaie de nous rassurer en nous disant qu'on n'est pas seul dans notre galère, un peu comme quand on était plus jeune, qu'on passait des examens, on se disait « Oh mince, je ne comprends rien », on relevait la tête pour voir les copains, on croisait le regard de notre ami, on se disait « Ouf, je ne suis pas toute seule dans ma galère. » Non, je pense que Pierre, il essaye plutôt de nous dire que ce qu'on vit est normal. Parfois, on pense que les temps troublés qu'on traverse sont un peu exceptionnels. Ils sont exceptionnellement difficiles. Mais en fait, ils n'ont rien d'extraordinaire. Les temps troublés, les incertitudes, la souffrance, c'est les partages de tous les enfants de Dieu. Et le fait que ce monde ne tourne pas rond et qu'on ne s'y sente pas chez nous, ça ne devrait pas nous amener à douter de la présence de Dieu. Ce n'est pas un bug dans le plan divin, parce que rien ne surprend Dieu. Il n'est pas en train d'improviser. Pierre, il nous prévient. Il nous dit, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Les temps troublés ne sont pas un signe d'abandon, mais une étape prévue dans notre marche avec Dieu. Et je vois en quoi ça peut en heurter certaines. Est-ce que Dieu nous appelle à souffrir ? Mais quelle sorte de Dieu fait ça ? Le verset suivant commence par « Le Dieu de toute grâce ». Dieu permet des temps troublés, mais il faut qu'on soit convaincu qu'il est bon. Pierre, il nous dit au chapitre 2, « Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion. Et avec chaque épreuve vient sa dose de grâce. » Est-ce que vous savez que l'injonction à ne pas avoir peur, elle revient plus de 300 fois dans la Bible ? Ma belle-mère m'a même dit 365 fois. Une pour chaque jour de l'année. C'est l'ordre de Dieu le plus répété. Dieu y réserve ses paroles les plus réconfortantes aux gens qui vivent sous l'emprise de la peur. Il n'arrête pas de répéter dès la jeunesse, « Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. » Comme pour Israël au désert, il nous fait parfois traverser des passages difficiles, puisqu'il a des choses à nous enseigner, il veut nous purifier, il veut nous préparer pour des choses plus grandes mais il pourvoit toujours à la manne nécessaire. Et tout comme il a dit aux Israélites, ne faites pas de stock de manne, parce que je vous en redonnerai tous les matins. Et bien la grâce et la compassion dont on a besoin, elles se renouvelleront aussi chaque matin. Parfois, on aimerait bien avoir un grand stock de grâce pour affronter la vie. Mais si c'était le cas, je pense qu'on ne penserait jamais à lever les yeux vers Dieu et on compterait sur ce stock qu'on a sans se tourner vers lui. C'est Corrie ten Boom qui raconte qu'elle a confié à son père sa crainte d'être découverte par les Allemands et envoyée en camp de concentration, ce qui a d'ailleurs fini par arriver. Et elle lui aurait dit « J'aurais pas la force !» Et son père lui a rappelé « Quand tu étais petite, tu prenais le train pour aller voir ta tante et je te donnais ton billet au dernier moment pour pas que tu le perdes. » Et bien Dieu, il agit de la même manière. Il donne la force en temps voulu pour pas qu'on la perde. Alors venons à lui chaque matin. Je ne sais pas pourquoi je dis chaque matin, chaque minute. Et dès que notre sérénité chancelle, eh ben on crie à Dieu comme Pierre qui marchait sur l'eau et qui a dit « Seigneur, sauve-moi !» C'est le Dieu de toute grâce qui nous appelle. Et à quoi est-ce qu'il nous appelle, ce Dieu de toute grâce? Eh bien, regardez, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous perfectionnera lui-même, il vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Et ce que je veux surtout pas faire, c'est diminuer la souffrance et l'angoisse que certaines d'entre nous traversent. Je sais qu'on est plusieurs à vivre des choses difficiles, à avoir des temps particulièrement troublés, mais je veux qu'on se le dise, ces temps troublés, ils auront une fin. Ils sont temporaires. Et de notre côté de la barrière, ça paraît interminable, mais ce n'est rien comparé au poids de gloire qui nous attend. Paul, il le formule comme ça, il dit, il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui va être révélée. La sagesse de Dieu, elle défie notre logique. Et en tant qu'humain, on a du mal à imaginer que la gloire et la joie puissent naître de la souffrance. Ça ne nous est pas naturel. Pourtant, Jésus, il en est l'exemple parfait. À la croix, il a connu l'agonie, l'angoisse, la séparation d'avec son Père. Et c'est précisément de cette angoisse qu'est venue la gloire de la résurrection. Et ce chemin, il nous montre que même quand on ne comprend pas bien le sens de nos épreuves, ben Dieu est en train d'accomplir son plan. Et ce qui nous semblait insensé, en fait, cette mort à la croix, la folie de la croix, ben c'était en fait l'accomplissement de son plan pour notre salut. Christ est notre exemple suprême. Et si on partage ses souffrances aujourd'hui, on partagera aussi sa gloire à venir. Et voilà d'où vient notre sérénité, de notre appel à partager cette gloire et de cette destinée. Et on sait que nos souffrances, elles ne sont pas vaines. Elles fortifient notre foi, elles affermissent notre espérance, elles transforment notre caractère. Comme l'or passé au feu, les épreuves révèlent ce que Dieu travaille en nous. Et c'est une bonne nouvelle, même si des fois c'est pas facile. Hein, ça atteste que l'Esprit est en train d'agir en nous, qu'il est en train de purifier notre foi, qu'il est en train de nous préparer à rencontrer Christ. Le verset 10 nous dit qu'il nous perfectionnera lui-même, qu'il nous affermira, nous fortifiera, nous rendra inébranlables. Ça fait rêver. Ces quatre verbes, ils décrivent en fait l'état de maturité spirituelle que Dieu désire pour chacune d'entre nous. C'est tout le contraire de l'agitation et de l'anxiété. Est-ce que ce n'est pas ça, la définition de la sérénité, d'être ferme, forte, confiante, inébranlable? J'en connais quelques-unes, des femmes sereines, hein, des femmes qui ne se laissent pas ébranler par les temps troublés qu'elles traversent. Mais je dois vous avouer que je les compte un peu sur le doigt de la main. Pourtant, la sérénité, c'est l'une des caractéristiques de la femme de valeur, en Proverbe 31. Hein, la force et l'honneur, voilà ce qui l'habille. Elle rit en pensant à l'avenir. Je ne sais pas si vous, vous riez en pensant à l'avenir. Moi, je ne ris pas toujours en pensant à l'avenir. Mais voilà, ces femmes sereines, en fait, leur sérénité, c'est le résultat de souffrances endurées dans la dépendance de Dieu. Et surtout, ce n'est pas notre œuvre, c'est la sienne. Alors, dans les temps troublés, au lieu de chercher à fuir ou à céder à l'angoisse, on doit apprendre à se demander, bah, « Seigneur, qu'est-ce que tu veux forger en moi à travers cette situation ?» Je vois là, dans ma vie, le fruit de l'inquiétude. Bah, quelle racine est-ce que tu veux arracher ? L'orgueil, le contrôle, le besoin d'approbation ? Sur quelle vérité biblique est-ce que tu veux que je sois fondée ? Et je sais que parfois, on traverse des périodes où notre angoisse, elle est tellement profonde qu'on n'arrive pas à se poser ces questions. On n'a pas le recul nécessaire. Mais dans ces moments-là, bah, je vous encourage juste à relire vos épreuves passées et à voir comment Dieu était en train d'œuvrer à ce moment-là. Et à vous répéter que l'œuvre qui est commencée en vous, elle sera menée à son plein accomplissement et parfaitement achevée lors de son retour. Et j'aimerais vous partager un petit témoignage personnel. Un peu comme dans les alcooliques anonymes. En fait, je suis une ancienne angoissée. Et je ne parle pas de l'angoisse qu'on traverse toutes ponctuellement. Je parle d'une angoisse qui rend malade, qui paralyse, qui ne permet plus de réfléchir rationnellement. En fait, petite, on m'a diagnostiquée avec une phobie scolaire. Et ma mère, en tant que bonne mère des années 80, m'a dit « Ok, mais tu y vas quand même. » Et je pleurais tous les matins de ma vie pour aller en classe de la petite section à la terminale. J'ai pleuré tous les jours de ma vie. Et je me suis rendue malade parfois pendant mes études. Je faisais des malaises tellement j'angoissais. Et adulte, j'ai même démissionné de mon premier métier d'institutrice parce que j'étais persuadée d'être incapable. Mais avec persévérance, je suis venue à Jésus jour après jour. Et pas juste avec des prières, Seigneur au secours, mais avec la certitude que si je reconnaissais mon manque de foi et que j'allais à lui tous les jours avec mes peurs et que je me prêchais que Dieu il voulait me faire du bien dans ce que je traversais, et ben, il me donnerait la grâce nécessaire pour affronter chaque jour. Pardon. Et aujourd'hui, et ben, je suis de nouveau enseignante. Voilà, je suis revenue à la case départ. Et c'est ma 12e rentrée sans panique. Voilà. Dieu m'a rétablie, il m'a affermie. Et je n'ai pas la prétention d'être inébranlable encore, mais c'est ma destination. Et Dieu, il dirige tout pour sa gloire et pour notre bien. Et comme Pierre, on ne peut que s'écrier à lui soit la puissance au siècle des siècles. Et merci. Alors pourquoi est-ce qu'on peut être sereine face aux incertitudes ? Eh bien, parce que les temps troublés ne sont pas un accident, mais un plan. Parce que le Dieu qui nous appelle est le Dieu de toute grâce. Et parce que les temps troublés, en fait, c'est le gage et le moyen de notre perfectionnement. C'est des occasions que Dieu nous donne de nous tourner vers lui. Et parce qu'on sait que ces souffrances, elles sont éphémères avant une destinée glorieuse. Le plan de transformation et de solidification de notre foi, il s'inscrit aussi dans une dimension communautaire. Le chemin, il est parfois rude et l'isolement, il mène vite au découragement. Mais Dieu, dans sa sagesse et toujours dans sa grâce, nous a placés au milieu d'un peuple pour avancer ensemble et se soutenir et s'exhorter dans la vérité. Donc après avoir compris pourquoi il nous faut faire face aux épreuves, on peut se poser la question, avec qui est-ce que je vais les affronter ? Et parfois on se décourage, parce qu'on sait que Dieu il veut nous faire du bien, il veut nous faire grandir à travers les épreuves, mais on a l'impression de passer à côté du but et d'échouer tout le temps. Combien de fois ça m'arrive de céder à la panique quand je ne sais pas vraiment ce qui va se passer. Ou combien de fois je pose mes soucis à ses pieds et je repars avec. Et pour citer Edward Welch, remplacer la peur et l'agitation par la paix et le repos de l'âme, c'est le travail de toute une vie. Mais ce travail, Dieu ne nous appelle pas à le faire toute seule. Pierre, il écrit, c'est par Sylvain, qui est à mes yeux un frère fidèle, que je vous écris ces quelques mots pour vous encourager et vous exhorter, vous attester que c'est bien à la véritable grâce de Dieu que vous êtes attachés. On a besoin de sœurs fidèles dans notre société ultra-individualiste. On a besoin d'une communauté pour nous encourager, pour nous reprendre avec amour et nous ramener à Christ. Et quand la sérénité, elle nous quitte, il faut qu'on le partage. Il faut arrêter de donner l'illusion qu'on maîtrise tout. Parce qu'en fait, nous les femmes, souvent on fait ça, ça va, ouais, ça va. Et tout ce que ça produit chez l'autre, c'est le fait de se sentir seule, nulle et incompétente. Alors, il faut qu'on ose se questionner les unes les autres. Tiens, je te trouve un peu stressée. Il y a quelque chose qui t'inquiète? Est-ce qu'il y a une vérité que tu oublies peut-être? Tu veux qu'on cherche ensemble un texte qui te parlera dans ce que tu traverses? Et trop souvent, on se contente de banalités lorsqu'on croise nos copines. Mais il ne faut pas qu'on se contente de ces banalités. Il faut qu'on ose rentrer dans le vif du sujet. Parce que l'Église, avec tous ses défauts, et ben c'est la grâce de Dieu pour notre sécurité et notre croissance. Et comme le dit Paul lorsqu'il écrit à Timothée, l'Église, c'est la colonne et l'appui de la vérité. Lorsqu'on est seul ou qu'on est mal entouré, on peut facilement se fabriquer un Dieu à notre image. Un Dieu qui nous dit un peu ce qu'on a envie d'entendre. Que c'est pas normal de traverser des épreuves ou des temps troublés, que c'est pas normal de vivre la souffrance. Mais en Église, on est corrigé, on est encouragé et on est gardé dans la saine doctrine. Cette doctrine, elle atteste que nous sommes attachés non pas à une grâce imaginaire, mais à celle que Christ a vraiment révélée. Je pense à un couple d'amis à nous qui ont été blessés par leur église. Et je sais que ça arrive d'être blessé par son église, mais aujourd'hui, ils laissent à personne de droit de regard sur leur vie. Et avec mon mari, on les voit s'endurcir dans des convictions qui nous semblent bizarres et dont on voit tous le mauvais fruit dans leur vie. Mais il ne faut pas qu'on néglige nos assemblées, parce que des fois, on s'accroche à des choses qu'on pense être vraies, mais qui ne le sont pas. Et vous connaissez peut-être l'expression « il faut un village pour élever un enfant ». Ben moi, je dis « il faut une église pour élever un chrétien ». Pierre, il s'adresse à l'église des élus qui est à Babylone. Babylone, ça nous rappelle quelque chose. On en a parlé ce matin. Hein, ça évoque quoi? Ça évoque l'exil. En vrai, c'était probablement un nom de code pour parler de l'église de Rome, pour pas qu'ils soient reconnus, parce qu'ils vivaient la persécution. Mais ça leur rappelle aussi qu'ils sont en exil, en route vers leur vraie patrie. Et nous aussi, on est en exil. On est ici pour peu de temps. On est appelé à être des témoins. Et l'église, elle doit être visible dans le monde, mais elle doit être assez différente pour interpeller le monde, pour qu'on soit des témoins de ce que la résurrection de Christ, elle change dans nos vies. Et Pierre, il donne pas mal d'exemples dans les chapitres précédents pour nous montrer à quoi doit ressembler notre vie familiale. Hein, bah, mari, aimez vos femmes, femmes, soyez soumises à vos maris. Notre vie professionnelle, hein, honorez vos maîtres. Notre vie relationnelle. Mais on va terminer avec les deux pistes qui sont évoquées au verset 14. L'amour et la paix. D'abord l'amour, hein, ce bisou d'affection. Est-ce que vous faites la bise à tout le monde quand vous arrivez à l'église? On le fait plus trop depuis le Covid, mais bon. Ce baiser d'affection, il symbolise une communauté soudée où l'on s'entraide concrètement. Dans mon église, ben, un de nos membres qui est atteint d'un cancer, bah, qu'est-ce qu'on fait? Bah, toute l'église se relaye, on leur amène des repas. On a un groupe WhatsApp entre mamans. Bah, quand une maman est fatiguée parce qu'elle n'en peut plus, parce qu'elle ne dort pas la nuit, parce que son bébé la réveille toutes les heures, et bah, le lendemain, elle dit « Est-ce que quelqu'un peut venir promener mon fils, que je puisse dormir ?» Et il y a une autre sœur de l'église qui vient, qui prend son enfant. Et on s'entraide comme ça. Et c'est cette relation d'amour qu'on a les unes pour les autres qui est notre témoignage le plus parlant. C'est ça qui attire les gens qui ne connaissent pas Dieu. Et lorsqu'on reçoit cet amour de Dieu, qu'on le transmet aux autres, ben, y a plus de place pour la crainte. Parce que 1 Jean 4, verset 18, nous dit que l'amour parfait bannit la crainte. Et ensuite, la paix. L'épître, il commence au chapitre 1 par « Que la grâce et la paix vous soient multipliées ». Et il finit au chapitre 5 par « Que la paix soit avec vous tous qui êtes en Christ ». Et vous remarquerez peut-être que Pierre, il finit pas en leur souhaitant la fin de leur tribulation. Mais je pense qu'entre le premier et le dernier chapitre, les lecteurs, ils ont compris qu'en fait la paix, elle est rendue possible même dans les tribulations. Parce que ce n'est pas une paix comme le monde nous donne, superficielle, un endormissement de l'esprit. Elle ne dépend pas des circonstances, mais au contraire, elle permet de les traverser avec confiance. C'est une paix spirituelle qui repose sur le fait que Christ a déjà réglé notre plus gros sujet de crainte, que tout le reste n'a pas assez de poids pour ébranler la sérénité qu'on a en lui. Il y a tout pile un an, ouais, il y a vraiment juste un an, ma grand-mère, elle est décédée à l'âge de 96 ans. Et elle a traversé beaucoup de temps troublé dans sa vie. Elle a connu la Grande Dépression au Canada. Elle avait une maladie auto-immune difficile, mais elle a tout traversé sous la main puissante de Dieu. Et à la veille de sa mort, elle était paisible. Et elle nous a dit, ben, je sais où je vais. Je sais que Dieu prendra soin de vous. Et elle est partie comme ça, en paix, devant l'ennemi final, ferme, inébranlable, sachant que Christ l'avait déjà vaincu. Et c'est ma prière pour chacune d'entre nous, qu'on puisse partir ferme et inébranlable.